Daniel, bonjour et l'équipe de la BBC. J'y suis. Je viens d'écouter la série d'émissions sur le lobby pro-israélien. Remarquable analyse et témoignage, comme d'habitude. Et ce n'est pas de la flagonnerie. Il faut espérer que Barack Obama aura des conseils aussi éclairés que Daniel Levy et Stephen Walt dans son équipe. Peut-être que ce serait un signe de pouvoir sortir de ce merdier de Proche-Orient dans l'avenir pas si lointain. Je voudrais par ailleurs féliciter la personne qui a fait la traduction simultanée, je pense que c'était Jivan Thiel, absolument remarquable, aucun contresens, traduction d'une précision limpide, bravo, continuons le combat.
Oui, bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs de France Inter qui nous soutiennent, nous le peuple de Guadeloupe qui est en train de souffrir en ce moment. Je voulais dire, voilà, ça fait des années et des années sous la Guadeloupe et Marie-Galante, parce que moi, originaire de Marie-Galante, on a trois familles de Béquet qui gèrent la Guadeloupe, qui a la même mise sur le pays, qui gèrent les prix, qui fixent les prix qu'ils veulent. Alors, il fallait bien un jour ou l'autre que cela arrive. Mes grands-parents, mes parents pouvaient rien dire à cette époque-là. Ils se taisaient, mais maintenant, les choses ont évolué. Je souhaite qu'une chose, que cela ne dégénère pas en bain de sang. Parce que s'il y a un Guadeloupéen ou deux Guadeloupéens qui est tué, je pense que le feu aux poudres, c'est tout ce que je souhaite, que ça ne dégénère pas en bain de sang. Et autrement, je voulais dire, samedi après-midi, il y aura une manifestation à Rennes, place de la mairie, les équipes d'outre-mer entières qui soutiennent la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, tous les gens qui veulent se joindre à nous peuvent venir. Au revoir.
Bonsoir, c'est Françoise du Havre. Alors, on a défilé pour la Palestine. Alors, est-ce qu'on pourrait pas en faire autant pour nos amis de la Guadeloupe, de la Martinique, là? Ils sont manipulés, là, par l'État. C'est pas possible qu'on peut pas rester à rien faire, à regarder simplement des images, écouter des commentaires. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on les soutienne. C'est pas tout d'aller prendre leur plage, leur soleil et tout, là. Là, ils ont besoin de nous. J'espère que voilà, un mot d'ordre va être lancé et qu'on soit tous dehors pour les soutenir. Vraiment, je le souhaite vraiment fortement. Au revoir les amis.
Hélas, un mort en Guadeloupe. Moi je suis une Française de métropole. Je suis de tout cœur avec eux. Je me demande en métropole qu'est-ce qu'on fait pour eux. On devrait essayer de recueillir un petit peu d'argent pour eux. On pourrait se dire qu'on va aller de vacances chez l'habitant là-bas pour les aider. Quand on voit le patronat qui a des caisses noires à n'en plus finir, qu'est-ce qu'on attend, nous, pour soutenir des mouvements qui sont l'honneur de la France? Ces gens-là nous représentent, parce que nous, ici, nous ne sommes même pas capables d'avoir un mouvement aussi fort. Voilà un mois qu'ils se battent et on devrait être tous derrière eux. C'est notre honneur, ils sont notre honneur. Voilà, merci.
En raison d'arrêt de travail, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer notre programme habituel.
Donc là, on approche du quartier général
de, Oui, de d'El Capé, la mutualité.
Dis donc, on a rarement vu une ville pareille. Hein. Dis donc, la nuit est en train de tomber sur Pointe-à-Pitre, mais alors, ville vide, déserte, des ordures renversées un peu de temps en temps. En arrivant, on a vu quelques bagnoles brûlées à droite, à gauche, mais très très peu d'habitants. Les Guadeloupéens, on ne sait pas trop où ils sont. Hein. Mais là, il y a un peu de vie, là. Là, il y a un peu de vie.
Et donc, en fait, la mutualité, que tu vois, c'est ça. Hein.
Donc, la mutualité qui est occupée
par
El Capé,
ouais.
Oui. El Capé, c'est?
En fait, c'est lié en âge pour contre profitation. Donc, en fait, c'est contre toute espèce de pression, de domination liée soit aux possessions des finances ou aussi à la couleur de la peau, malheureusement liée un peu à l'histoire de l'île. Hein. où en fait ce sont ceux qui sont descendants donc des béquets, de ce qu'on appelle les béquets, mais les descendants d'esclavagistes qui ont le foncier et l'économie. Donc voilà.
Ça a commencé hier comme ça, en arrivant à Pointe-à-Pitre, on a découvert une ville vide, une ville suspendue, en tension, avec des traces des émeutes de la veille, barrages, poubelles, voitures carbonisées, une ambiance un peu de Clichy sous bois, sous les tropiques. Et puis on est allé tout de suite évidemment au quartier qu'on appelle la Mutualité, c'est-à-dire le QG de du LKP, en admirant le créole qui a créé ce mot nouveau de profitation, enfin pour nous, profitation qui est un mot génial qui mélange à la fois profit, exploitation, etc. Là, on a rencontré un certain nombre de porte-parole, de responsables qui sont très remontés. Ils arrivent à tenir cette lutte depuis le 20 janvier, mais ils nous disent que c'est depuis bien plus longtemps. Bien évidemment, ici, il y a une tradition en Guadeloupe de lutte. Et puis, c'est plus tard, dans la nuit, qu'on a appris que des émeutes avaient lieu tout autour de Pointe-à-Pitre, avec des commerces pillés, des établissements incendiés, des véhicules brûlés, etc. Et puis surtout, vers un peu après 2h du matin, la mort d'un syndicaliste, le premier mort de cette tragédie, Jacques Bilot, qui est un agent des impôts, un syndicaliste de la CGTG. Alors, sa mort, pour l'instant, fait polémique. Il y a une version officielle qui est celle du préfet, mais il y a des contestations sur les circonstances de cette mort. Bien évidemment, ça a été suivi d'une quantité d'appels au calme. Déjà avant ce drame, il y avait des appels au calme des leaders du mouvement LKP, et à l'évidence, il y a ici maintenant un climat très tendu. On parle d'un climat de guerre civile, de guérilla. C'est pas facile pour les journalistes de travailler ici. On dit que les adolescents qui sont responsables de ces mouvements sont sans contrôle, ont échappé au contrôle du LKP, mais alors pourquoi seulement maintenant et pourquoi auparavant, etc. Il semble à l'évidence que incompétence ou calcul cynique, le gouvernement ne soit pas du tout à la hauteur évidemment de la situation, et évidemment on craint le pire pour les heures et les jours à venir ici en Guadeloupe. Alors, il ne faudrait pas pour autant que ce drame aveugle le fond du problème. On va parler de spirale de la violence, on va essayer de savoir qui a commencé, etc. Mais qui a commencé, c'est évidemment la situation sociale, économique, l'incurie politique totale concernant ce pays qui a conduit à cette situation. Et pour en avoir la preuve, voilà des extraits des discours hier soir entendus dans la rue et applaudis par le public.
Il dit qu'ils sont 49, qu'ils ne peuvent pas être tous partout, donc ils sont obligés de les partager. Donc maintenant, en fait, il dit que malgré qu'il y a des barrages, malgré qu'il y a des difficultés, mais que les gens sont encore là, et donc il faut continuer en fait la lutte, et qu'il les remercie de leur présence là. Et effectivement, il y a des moments où effectivement il faut se surpasser, donc il faut faire des sacrifices. Il y a de ceux qui peuvent perdre leur travail, il y a de ceux aussi qui ont dit que les enfants ne vont pas à l'école, mais il y a ce qui se fait en Guadeloupe aujourd'hui. Ça fait partie des peuples qui veulent s'émanciper, des peuples qui veulent revendiquer plus de social, plus de conditions de vie idéales. Demain, il peut partir, on peut l'éliminer, mais la lutte demande à ce qu'il faut continuer, et il faut consoler ceux qui pleurent, parce qu'il y a souvent en fait la répression, mais la répression en fait ne doit pas nous arrêter. Et c'est pour nos enfants. Voilà, il y a des gens qui ont déjà sacrifié leur vie pour qu'on puisse avoir un semblant de liberté. Donc, chers amis, camarades, il faut avancer, il faut continuer la lutte, et donc on applaudit.
Le public applaudit, c'est très émouvant, hein.
Voilà, c'était hier soir à Pointe-à-Pitre. On continue évidemment à suivre tout ça. Aujourd'hui, on continue le deuxième volet de l'entretien avec Ignacio Ramonet sur le crack parfait. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base IGC, 01 56 40 37 37. On attend vos messages, évidemment, amis de Guadeloupe, si vous êtes dans le coin, si vous êtes témoin, si vous avez quelque chose à dire, vous avez le répondeur, je l'écoute ici depuis Pointe-à-Pitre, 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est le matelot blogueur de Souvenirs de mer et Marine Inconnue de passage à Poitiers qui vous parle. Avis de réunion du repère de Poitiers au café à Minima, ex Barrio Locos, Grand Rue à 20h ce mercredi 18 février. Ces chroniques chaque premier et troisième mercredi du mois, qu'on se le dise. Bon après-midi à tous.
Salut les AMG, on n'a pas souvent l'occasion de rigoler, alors je vous lis un extrait de l'Est républicain d'hier, sous le titre « Une dictature de fait », il parle du référendum de Chavez. L'opposition a reconnu sa défaite, mais elle accuse le pouvoir d'avoir, pour l'emporter, utilisé les ressources publiques et les médias qu'il contrôle, fait pression sur les 2 millions de fonctionnaires et imposé la diffusion en direct des discours présidentiels sur toutes les chaînes de télévision. Voilà, moi ça m'a vraiment fait rigoler hier.
Daniel, bonjour, c'est Kamel. Je suis responsable d'une communauté Emmaüs à Marseille. Hier, la communauté a été perquisitionnée par la police. Donc nous, aujourd'hui, nous fermons la communauté de Marseille-Pointe-Rouge, mais d'autres communautés du Sud-Est pour protester. Tout ça est parti d'un sans-papier qui a été arrêté dans la rue. Et donc la police a débarqué dans la communauté. Il n'y a vraiment plus de lieu de sérénité dans ce monde. Les écoles, les Emmaüs maintenant sont perquisitionnées.
Bonjour les repérés. En ce troisième vendredi du mois de février, le repère de Nantes se réunira comme d'habitude à 19h19, notez le changement d'heure quand même, hein, 19h19, au Méliès. Ce mois-ci, nous parlerons de la surveillance, de la répression et de la criminalisation des mouvements sociaux. Qu'est-ce qui a changé dans la loi? Quelles en sont les conséquences? Comment s'organise la répression? Comment doit-on réagir ou ne pas réagir? La discussion s'organisera autour des faucheurs volontaires, de membres du comité de soutien de Samy Benmeziane, enseignant nantais poursuivi en justice pour résistance avec violence à un agent de la force publique, de syndicalistes de Sud, de militants contre le deuxième aéroport, peut-être d'autres intervenants, et de vous surtout si vous venez vendredi 20 février à partir de 19h19 au Méliès, rue des Carmélites. Plus d'infos sur notre site www.repère-nantes.info. À vendredi.
Merveilleux lapsus d'une journaliste sur France Info ce matin à propos de l'intervention de Sarko. Ce soir, elle a parlé d'une allocation télévisée. C'est toujours ça de prix. À bientôt, je vous embrasse.
Je dis crack parfait de la même manière qu'on dit la tempête parfaite. Ou comme on dit, un crime parfait.
Ignacio Ramonet, un crack parfait.
Il ne s'agit pas de dire que c'est parfait, mais que un certain nombre d'éléments sont rassemblés qui n'auraient pas été rassemblés dans des circonstances antérieures. Par exemple, cette crise, donc qui est une crise de grande importance financière, elle coïncide avec à la fois la crise climatique, hein, qui atteint en quelque sorte son apogée en ce moment, avec la crise alimentaire, avec la crise énergétique. Et puis, cette crise est à la fois une crise financière, et quand on dit financière, c'est de tout le système financier, c'est-à-dire une crise du crédit immobilier, puis une crise des banques, puis une crise des caisses d'épargne, puis une crise des autorités de régulation, puis une crise des agences de notation, puis une crise des agences comptables, etc., des systèmes même comptables. Mais c'est aussi une crise économique au sens très large, puisque l'économie est paralysée. C'est en train de devenir une crise sociale grave, et ça deviendra inévitablement une crise politique. Dans certains pays, l'Islande par exemple, ça s'est déjà traduit en crise politique, avec chute de gouvernement, remplacement par l'opposition, etc. Donc, quand on trouve tous ces éléments conjugués, entrelacés, au même moment, dans l'ensemble de la planète, on peut dire que c'est, disons, une crise parfaite, car une conjonction comme celle-ci se produit très rarement. Peut-être qu'elle ne s'est jamais produite dans l'histoire de l'humanité.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben, si j'y suis, avec Ignacio Ramonet, un crack parfait.
Flight number 2, arriving from New York.
Ignacio Ramonet, on continue avec votre bouquin Le Crack Parfait, là, qui sort chez Galilée, Crise du siècle et refondation de l'avenir. On va venir à la refondation de l'avenir, parce que en vous écoutant et puis en vivant cette situation, certains se disent « Oh, mais à quelque chose malheur est bon, cette crise va permettre le dépassement du capitalisme, le capitalisme est en train de s'effondrer et la révolution prolétarienne tant attendue et tant souhaitée est à nos portes. » Or, vous refroidissez un petit peu ces enthousiasmes en nous disant « Ben, pas trop, parce que des crises auxquelles celle-ci peut être comparée, encore qu'elle soit pas forcément, si on voulait bien, comparable à quoi que ce soit, mais enfin, si on essaye de comparer surtout à celle de 29, bien évidemment, on voit que ça a plutôt engendré des Hitler, des Staline et des Franco, que des lendemains qui chantent et des grands soirs. Et ou que des Gandhi. Oui. Oui. Donc comment se sortir de ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas, finalement? Est-ce qu'on peut transformer? Vous allez me dire que oui, on peut transformer cette mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est naturellement une bonne nouvelle?
Je dis d'abord qu'il faut penser aux souffrances que provoque cette crise. Donc, avant toute chose. Et se dire que cette crise, qui ne fait que commencer, en fait, elle n'a pas encore démarré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions, cette crise est là pour durer. Par exemple, si on la compare à 29, mais nous admettons maintenant qu'elle est plus importante que celle de 29. Mais si on la compare à celle de 29 ne s'est terminée qu'avec le plan Marshall pour l'Europe.
45.
47, 48. Donc, par conséquent, elle a duré 20 ans. Et à l'intérieur de ces 20 ans, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu toutes ces horreurs. Donc, par conséquent, le coût de cette crise va être un coût social et sans doute politique. D'une part, il faut bien voir cela, cette crise ne passera pas comme une lettre à la poste, ne passera pas inaperçue. Et que, se traduisant par de la souffrance sociale, elle se traduira par des protestations sociales. On commence à le voir. On l'a vu en Grèce, d'une certaine façon, on l'a vu en Islande, on le voit en ce moment en Guadeloupe.
Et les protestations sociales ne sont pas toutes progressistes.
Et les protestations sociales, voilà, c'est la gestion des protestations sociales. Il faut voir que les protestations sociales provoquées par la crise de 29, par exemple, avaient engendré dans un premier temps la République en Espagne, mais très vite la guerre civile et donc la victoire fasciste. La crise de 29 en Allemagne a provoqué un sursaut, une montée du Parti communiste en Allemagne très importante, mais une arrivée très rapide, dès 1933, de Hitler au pouvoir. Donc, par conséquent...
Et en France, on a, en 1934, on a frôlé le fascisme.
Le fascisme. Il y a eu, bien entendu, les manifestations de février 1934. Donc, par conséquent, il faut bien voir que... et moi je dis, il faut réfléchir énormément, parce que la situation, pas seulement en France, mais dans un certain nombre de pays, peut devenir ce que les analystes qualifient de pré-révolutionnaire. C'est-à-dire avec des désordres qui vont se multiplier, parce que les insatisfactions et les souffrances vont être fortes, se multiplient. Et donc, on peut voir. Mais, je veux dire, aujourd'hui, le pouvoir est assez intelligent pour utiliser, car nos sociétés ne supportent pas la violence collectivement, et donc par conséquent toute expression de cette souffrance qui prendrait la forme d'une violence à caractère revanchard serait très rapidement sanctionnée politiquement. Il faut analyser ce qui s'est passé en Grèce, par exemple. En Grèce, la protestation a eu une énorme force, mais toute
populaire,
son énergie,
très populaire,
et très de nouvelles générations, qui sont les générations, effectivement, qui n'arrivent pas à entrer aujourd'hui dans le monde du travail, et qui ne se satisfont pas de recevoir 700 ou 800 euros, etc.
Là-bas, si j'y suis, Grèce, décembre 2008.
Alors là, il y a des tags, des graffitis qui disent « L'État vous assassine ». Et un peu plus loin, « Nous sommes sur une image du futur. Nous demandons rien, nous voulons tout. »
Mais toute l'énergie de la protestation, en quelque sorte, a été épuisée dans l'explosion elle-même. Et ça ne s'est pas traduit par des avancées politiques. Qui plus est, on sort d'une période, disons, où les instruments de contrôle social ont énormément été affinés en raison, disons, de la décennie de lutte internationale contre le terrorisme, entre guillemets, qui est la guerre qui a marqué la dernière décennie, le double mandat du président Bush. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, les systèmes démocratiques sont très bien armés pour pouvoir à la fois surveiller, contrôler, faire accepter par la société des réductions de liberté au nom de la sécurité. On l'a vu collectivement, tout le monde est prêt aujourd'hui à faire des concessions, au point même que certaines démocraties se sont permis d'accepter des prisons secrètes, ou d'accepter la pratique de la torture, ou d'accepter que traversent leur pays des avions transportant des prisonniers enlevés, c'est-à-dire disparus, entre guillemets, et acheminés vers des pays où la torture allait leur être appliquée. Donc on a vu que nos sociétés, et je parle tout gouvernement confondu, de droite et de gauche, eh bien, donc nos sociétés aujourd'hui sont quand même bien équipées, en plus de l'articulation pouvoir politique, pouvoir médiatique, qui est une articulation fondamentale qu'il faut bien comprendre. Hein. Ce qui vient de se passer en France n'est que l'explicitation de cette articulation, c'est-à-dire le fait que le pouvoir ait décidé de prendre ses responsabilités directement vis-à-vis du service public de l'information, c'est faire ouvertement ce qui est plus ou moins articulé à l'échelle, disons, abstraite. Hein.
Alors, il y a une autre réforme qui alimente les discussions sur la personnalisation du pouvoir, c'est la réforme de l'audiovisuel public. Désormais, c'est le président de la République qui nommera et qui révoquera les patrons de l'audiovisuel public sous le contrôle du CSA et des parlementaires. Est-ce qu'il n'y a pas...
Nicolas Sarkozy, 5 février 2009.
C'est factuellement faux.
Ah, c'était pas le président de la République qui nommera...
C'est le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres.
Non, attendez.
Et vous présidez le Conseil des ministres.
Et donc, par conséquent, il y aurait, si la situation continue de se dégrader, il y aurait une grande tentation à se dire, il y a un rapport de force qui est favorable aux forces populaires, parce que beaucoup de gens sont malheureux et protestent, mais est-ce qu'il y a la masse critique suffisante pour le faire, et comment le faire? Moi, je dirais que toute voix qui ne serait pas une voix électorale, par les urnes, serait rejetée dans nos sociétés.
Et ce à quoi vous ajoutez que les partis de gauche sont en état de vide théorique, et... Vous savez qu'on évoque quand même quelque chose, c'est l'altermondialisme. Vous êtes un acteur, sinon peut-être pas le père de l'altermondialisme. Enfin, vous avez été le créateur d'Attaque, on connaît Ignacio Ramonet, et votre nom est lié à l'altermondialisme.
J'avais proposé même un autre monde est possible, qui a donné lieu au mot altermondialisme.
Donc aujourd'hui, on en est avec l'altermondialisme. Est-ce que l'altermondialisme est, dans la situation présente, et face à ce que vous appelez le crack parfait, une solution, ou est-ce que cet altermondialisme aujourd'hui est porteur de refondation, de capacité à refonder l'avenir, ou bien est-ce qu'il faut oublier cette étape qui a eu son mérite? Alors, qu'il faut tourner la page.
Ce crack est mondial. C'est-à-dire que, évidemment, si on dit est-ce que l'altermondialisme est utile dans telle ou telle région, est-ce qu'il est utile en France? Est-ce qu'il peut fonctionner en France? Moi, je vous dirais, par exemple, en Amérique latine, c'est évident. Car qu'est-ce qui se passe en Amérique latine, pour le dire rapidement? Il y a en Amérique latine aujourd'hui une douzaine de pays qui ont des gouvernements de progrès et qui ont des gouvernements qui sont tous, avant le crack, anti-néolibéraux et qui ont été élus par des bases électorales, par des sociétés, démocratiquement. C'est-à-dire, ils ont montré que ce n'est pas la voie, disons, révolutionnaire, entre guillemets, dans le sens que ce n'est pas par la voie de la barricade ou de la protestation, disons, de violence ouverte que l'on y arrive, mais tout simplement par les élections. Et la caractéristique générale, c'est que tous ces gouvernements sont arrivés au pouvoir portés par le mouvement social et pas par des partis politiques. Mmh. Vous prenez Chavez, vous prenez Morales, vous prenez Correa, vous prenez Lugo, au Paraguay, etc. Vous avez, disons, l'exception de Lula. Mais Lula, il est aussi porté par les mouvements sociaux. D'ailleurs, on l'a vu. Moi, j'arrive de Belém, Et à Belém, Lula, car le Brésil est à la veille d'une élection présidentielle l'an prochain, eh bien, Lula s'est réconcilié avec les mouvements sociaux, parce qu'il en a besoin, le mouvement des sans-terres, le mouvement social. Donc, et le mouvement social, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement un mouvement qui s'est nourri des forums sociaux mondiaux, c'est-à-dire où toutes les idées de l'altermondialisme ont été exprimées.
À des milliers de kilomètres de Davos, dans la jungle d'Amazonie.
France 24, 28 janvier 2009.
Comme chaque année, le Forum social mondial de Belém cherche à faire contrepoids au Forum économique où se retrouvent décideurs politiques et directeurs de grandes entreprises. Surnommé le Woodstock des tropiques, le Forum social a longtemps été considéré comme le rassemblement de quelques gauchistes idéalistes. Mais cette année, la crise mobilise les foules. Plus de 100 000 personnes sont présentes et 5 chefs d'État. Le président brésilien a ainsi préféré Belém à Davos. Lui et ses homologues du continent ont fustigé les États-Unis et les défenseurs du néolibéralisme réunis au même moment dans les Alpes suisses.
Les responsables de cette crise essayent de nous donner des leçons de morale et de politique économique. Les peuples les plus puissants de la planète cherchent un remède alors que le capitalisme est déjà mort.
Militants politiques, syndicaux, écologistes et féministes, tous ont un mot d'ordre, un autre monde est possible. Alors que le reste de la planète est lui aussi à la recherche d'une alternative au capitalisme, ils ont pour une fois une chance d'être écoutés.
J'ai assisté à Belém, comme d'ailleurs beaucoup de journalistes, à cette rencontre tout à fait intéressante entre quatre présidents, Chavez, Correa, Morales et Lugo, hein, donc du Venezuela, de l'Équateur, de Bolivie et du Paraguay, qui les quatre ont dit, et en particulier Correa, Lugo et Morales, qu'ils remerciaient le mouvement social, ils étaient invités par les mouvements sociaux, des milliers de représentants des mouvements sociaux, qu'ils les remerciaient parce que c'est en venant au Forum social, comme militant de base, comme participant de base, comme syndicaliste, ou comme économiste, ou comme conférencier, etc., qu'ils avaient appris énormément d'idées de ce qui se faisait ici ou là, et que c'est comme ça qu'ils avaient pu modifier la politique, et ils avaient pu changer la politique, car ce sont des politiques, en quelque sorte, révolutionnaires par rapport à ce qui se faisait. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce modèle latino-américain, ou le mouvement social, ou l'altermondialisme, quand il s'enracine dans le mouvement social, peut avoir le même rôle en Europe? Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même sociologie, c'est pas la même, disons...
C'est pas le même moment historique.
Même
étape.
Voilà, c'est pas la même étape historique. Mais, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas seulement une affaire de partis politiques. Parce que, pour ce que je dis dans le livre, les partis aujourd'hui de gauche, globalement, se retrouvent orphelins de théorie face à ce qui se passe. C'est-à-dire que face à ce qui se passe, ils savent pas quoi faire. Ils peuvent improviser. Or, en général, l'histoire montre que la société, les citoyens, vont plus vite que les dirigeants dans ce cas-là. Les dirigeants sont obligés de suivre.
Oh.
Et donc, en France, c'est plutôt aux syndicats et aux mouvements sociaux, c'est-à-dire les associations, les ONG, etc., qui se sont beaucoup développées, hein, de défense de tel collectif, de tel autre collectif, etc., et les syndicats, on le voit bien aujourd'hui. Il suffit de voir ce qui se passe en Guadeloupe, hein,
oui.
À l'échelle réduite. Mais comment toute une société, là, vous avez une masse critique, là, vous avez un rapport de force, et là, vous avez d'ailleurs une certaine autodiscipline. Une société tout à fait qui se contrôle et qui néanmoins réclame ce qu'elle considère être nécessaire.
Ce matin, la route est toujours bloquée. Les barrages portent encore les traces de la nuit d'émeute. Manuel soutient les manifestants.
TF1.
Il perçoit une petite retraite de 600 euros. Sa détermination reste sans faille.
17 février 2009.
Ah, jusqu'au bout de l'âme.
La vie trop chère. On ira jusqu'au bout, jusqu'à la mort. La vie est trop chère en Guadeloupe. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Il y a des délinquants dans la rue, des voleurs, mais ce n'est pas leur faute. Il n'y a rien pour eux. Aujourd'hui, les agents de sûreté de l'aéroport ont entamé une grève illimitée, une de plus. Les liaisons avec la métropole sont suspendues. Sur l'île, c'est toute l'économie qui est au point mort, un retour en arrière qui rappelle les grèves les plus dures de l'histoire de la Guadeloupe.
Nous souhaitons que tout redevienne normal, que les activités quotidiennes reviennent sur le tapis. Par exemple, moi qui suis enseignant, j'aurais aimé retrouver déjà le chemin de l'école, que mes élèves retrouvent les activités pédagogiques.
Je pense que ça va de plus en plus vite. Est-ce bien, est-ce mal? J'espère que c'est pour le bien.
Après 4 semaines de conflits qui ont paralysé l'économie de l'île, l'inquiétude est réelle. Pourtant, la population, dans sa majorité, semble soutenir les revendications des grévistes, notamment sur la question des bas salaires, considérés ici comme un véritable progrès social pour les plus démunis.
Bon Dieu, passez meilleur en pays là. Là, you connaît souffrance à pays là. Si entreprise a déposé clé là. Les hauts mettez-nous tout dans la rue là. Bref, en pays là. Moi, je vous bref, en pays là. L'économie bloquée en pays là. Voyez lumière ainsi les travailleurs. Anti-lumière pour tous les décideurs. Ensemble, faut nous trouver en solution. Station service fermé en pays là. Marchandise là trop chère en pays là. Ça qui en haut, yo bien foutu pas mal. Ouais, ça qui en bas, c'est yo qui t'inima. Guadeloupe est gourmé pour ça qui taille. Martinique est gourmé pour ça qui taille. Guyane est la gourmé pour ça qui taille. Ouais, faut nous arrêter. Admiral, les travailleurs descendent dans la rue là.
Alors, dernier chapitre, et pour conclure, et pour ouvrir ou pour commencer comme on voudra, refondation de l'avenir. Parce qu'évidemment, vous ne pouviez pas finir ce livre sans suggérer quelques pistes quand même, quelques projets.
Oui, alors, le livre, c'est aussi une analyse de ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Et alors, même si on, il n'y a pas un programme, hein, tout fait, mais il faut, par exemple, quelle que soit la solution qui sera adoptée, il faut aller vers une réindustrialisation qui réconcilie la production industrielle et le respect de l'environnement, par exemple. Il est évident que cette idée d'aller vers un New Deal vert, un Green New Deal, comme on dit, comme Obama le dit, est une nécessité aujourd'hui. Mais déjà, sur le plan financier économique, tout le système est à revoir. Tout le système. Nous, nous défendons depuis longtemps la suppression des paradis fiscaux. On ne changera pas de système sans la suppression des paradis fiscaux. J'ai été surpris de voir qu'aujourd'hui, même des dirigeants conservateurs, je pense au président Sarkozy, défendent l'idée de la suppression des paradis fiscaux.
L'idée.
Ensuite, il y aura des arrangements. Mais on sent bien que les paradis fiscaux, qui sont totalement amoraux, ont joué un rôle déterminant dans cette crise, bien entendu, en amplifiant, en quelque sorte, le... Bon, c'est l'occasion, aujourd'hui, de revenir sur l'idée de la taxe Tobin. Car au moment, là aussi où nous parlons, il y a des monnaies qui continuent d'être attaquées. Il y a des gens qui sont en train de s'enrichir en travaillant contre le rouble, en travaillant contre la livre sterling, etc. Bon, donc nous avions dit depuis longtemps ce que cet économiste américain avait dit, il faut le réintroduire. C'est le moment de réintroduire des autorités de régulation. Ce n'est pas normal que les bourses, par exemple, soient livrées à elles-mêmes. Il faut introduire des autorités de régulation. Il faut aussi renationaliser tout ce qu'on appelle les biens communs de l'humanité, c'est-à-dire l'eau, l'air, la terre en particulier, pour régler les questions alimentaires et la crise alimentaire elle aussi. Donc L'idée, c'est de revenir à une sorte de programme que les altermondialistes avons développé depuis très longtemps. Il y avait un manifeste de Porto Alegre où il y avait toute une liste, n'est-ce pas, par exemple, donc en réduisant aussi le libre-échangisme, en introduisant le protectionnisme. On se révolte dès qu'on prononce ce nom, mais il est évident que il faut aller vers un protectionnisme qui tout simplement empêche d'importer des produits qui ont été fabriqués par des salariés qui ont été surexploités et qui donc mettent en concurrence des systèmes de protection sociale tout à fait différents des pays où il n'y en a pas, et l'importation de ces produits finit par détruire le système de protection sociale qui existe. Au contraire, il faut que ça se développe partout. L'objectif n'est pas la destruction de notre système de protection sociale. L'objectif, c'est qu'il y ait un système de protection sociale partout. De la même manière, importer des produits qui détruisent l'environnement, l'environnement est à l'ensemble de la planète. Donc, il ne faut pas encourager cela. Donc, il s'agit non pas de faire un protectionnisme national, mais faire un protectionnisme à l'échelle de l'Europe, 350 millions d'habitants. Donc, il ne s'agit pas de faire un protectionnisme, disons, égoïste et mesquin, mais à une échelle beaucoup plus continentale et sur le principe d'un partenariat qui permettrait un développement pour l'ensemble du monde et non pas simplement une partie du monde au détriment, en particulier, des secteurs de travail. Je pense aussi que on ne pourra pas refonder l'économie sans la participation des citoyens. Par exemple, l'idée de dire on va refonder le capitalisme dans le G20, ce qui est déjà une énorme concession, n'est-ce pas, parce qu'on aurait pu le faire au G8, disent-ils, mais nous allons le faire avec le G20, parce que dans le G20, il y a des pays comme le Brésil, le Mexique, l'Argentine, etc. Bon. Mais c'est pas le G20. Le G20 n'est pas plus démocratique que le G8 ou que le G30. Dans le monde, il y a 192 pays représenté à l'ONU. Donc il faut un G192. Il est important de le discuter. Je dirais même qu'il faut que...
Vous êtes en train de réinventer l'ONU, là, comme vous êtes là.
Oui, mais si vous voulez, il faudrait qu'à l'ONU, il y ait d'ailleurs une sorte d'autorité mondiale économique. Hein, puisque l'économie, elle finit par nous concerner tous, etc. Je pense qu'il faut que les mouvements sociaux, dont nous parlions tout à l'heure, aient leur mot à dire à l'heure d'élaborer une nouvelle économie, l'économie plus participative, plus démocratique, plus juste. Elle ne sera pas démocratique si les gens n'ont pas le droit d'en discuter. Alors on me dira, oui, mais à ce moment-là, ça va durer très longtemps. Oui, la démocratie, c'est compliqué parfois, hein, mais c'est ça la démocratie. Je veux dire, elle suppose effectivement que chacun puisse donner son sentiment, et ça permet de créer un néo-keynésianisme plus démocratique qu'était la période keynésienne pendant les 30 glorieuses.
Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées, et c'est un même système qu'il y a derrière tout ça.
On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas.
Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
Ils ont créé une guerre économique.
C'est un seul et même système.
Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux. J'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de prier en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je pompe le sang du tiers-monde, chope leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vifs pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile. Derrière pas meilleur profit que le business de la mort. Destruction, construction, investissement, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce qui monte les uns contre les autres pour alimenter ma force, car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions. Libéralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, meurtré par les puissants, contre les richesses et multinationales. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, montré par les puissants, contre les chefs et multinationales. dire imposer à la planète. J'ai instauré ma dictature. Tout est profit, tout est marchandise, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemi. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi. Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance de votre planète. Elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines, j'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés. Car le mal, ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, dénaturé le vital, plein l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer. Pour mieux construire mon empire, je suis capable du pire pour vous faire croire en ce qu'il faut. Si je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, bloqué par les puissants, contre les richesses multinationales, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, bloqué par les puissants, contre les richesses multinationales, économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature.
En tout cas, en vous écoutant, on se dit que il est nécessaire, évidemment, de réfléchir et de à ce qu'on peut faire, compte tenu des leçons du passé, etc. Mais on n'en prend pas tellement le chemin, Ignacio Ramonet, parce que ceux qui sont en train de parler de ce crack, de cette crise, sont ceux qui très souvent l'ont défendu et en ont été les propagateurs.
Oui, alors quel est le problème pour eux? C'est qu'ils n'ont pas la solution.
Et moi, je n'ai pas à me plaindre d'avoir la crise du siècle.
Nicolas Sarkozy, Val d'Isère, 14 février 2009.
Et de devoir trouver des solutions. Parce que c'est pas tout le monde qui a assumé ces responsabilités-là. Et c'est pour ça que je me sens de cette famille des sportifs et des valeurs qui sont les vôtres.
Observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe. Et je vais vous dire, depuis que cette crise a éclaté, disons depuis l'automne dernier, où elle a éclaté de manière qu'on ne peut plus l'occulter et que maintenant tout le monde en parle, on a essayé deux ou trois choses à l'échelle internationale. Tous les pays ont fait à peu près la même chose. C'est-à-dire ce qu'on a appelé les plans de relance. Bon. Il y a eu un plan de relance américain, déjà sous Bush, en novembre dernier, qui a impressionné le monde. C'était 700 milliards de dollars. On n'a jamais vu ça. 700 milliards de dollars. Et puis, on a très vite vu que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et beaucoup de pays ont lancé des plans. Si on cumule le nombre de pays, on estime qu'il y a plus de 2000 milliards de dollars qui ont été investis entre les Japonais, les Russes, les Chinois. Les Chinois ont consacré 450 milliards de dollars à la relance de leur économie, etc. Et puis, Gordon Brown a fait un plan qui était en volume pas tellement important, mais techniquement différent. Parce que il n'a pas suivi le plan Paulson. Le plan Paulson, c'était le plan américain. Okay, oui. C'est-à-dire avec cette idée de créer des banques, ce qu'on appelle des bad banks, des banques qui vont prendre les titres toxiques, en quelque sorte. Mais il a décidé, au contraire, de nationaliser les banques, de leur injecter de l'argent, de faire en sorte que les banques puissent continuer le crédit. À l'époque, on a dit, c'est formidable. C'est ça qu'il faut faire. C'est le plan Brown qu'il faut faire. Paulson lui-même a corrigé son plan et il a dit, je vais maintenant l'orienter dans la direction du plan Brown. Et le plan Brown a été un peu adopté partout, dont la France, qui a nationalisé Fortis, qui a aidé les banques, etc. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Ça ne marche pas. Le premier qui le dit, c'est Brown qui le reconnaît. Et les premiers qui le constatent, ce sont les Anglais. Quand Brown a fait son plan, il était au sommet des sondages. Aujourd'hui, il s'effondre. Il est à 10 ou 15 points en dessous des conservateurs. Ça ne marche pas. Et le plan Paulson, première mouture, plan Paulson, deuxième mouture, ne marche pas. Au point que Obama vient de faire maintenant un plan de 800 milliards de dollars. 800! Plan Paulson, 700. C'était déjà un record du monde. Et ça ne marchera pas. Et donc, par conséquent, nous voyons bien que l'idée de dire on va s'attaquer à cette crise avec des méthodes qui ont déjà été utilisées et qui ont fonctionné, ne fonctionne pas. En raison de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'identité de cette crise n'a pas été encore formulée. Krugman disait dans son dernier éditorial du New York Times que pendant que les gouvernements continuent de faire des plans, L'économie est toujours sur le toboggan. On continue de s'effondrer. Les bourses continuent de perdre chaque jour. Les banques continuent de ne pas prêter. Le système continue de ne pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de sortir de la crise. On est en train de s'enfoncer dans la crise. Quel est le risque? Le risque, c'est que, une fois que le système économique s'effondre, il ne reste que les États. Ce sont les États les derniers garants. C'est le mur contre lequel tout est adossé. Mais si les États font faillite, et on a vu qu'ils font faillite, on vient de citer l'Islande, la Hongrie, l'Ukraine, d'autres États. Eh bien, si les États font faillite, ce serait une situation très inédite, parce qu'on verrait beaucoup d'États faire faillite. Si des États commencent à craquer, par exemple, la Chine, c'est le maillon faible du système. Parce qu'il y a un tel écart entre ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas, et qui ne vont plus s'en sortir, c'est-à-dire qui perdent l'espoir de s'en sortir. Si la Chine entre en convulsion, on aurait la crise économique, puis une crise géopolitique d'une dimension qu'on ne connaît pas. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Donc, par conséquent, je dis, il faudra bien en venir à des solutions différentes. Il faudra bien en venir à des solutions qui sortent du programme établi. Et j'imagine qu'à ce moment-là, effectivement, il faudra faire preuve d'imagination, de créativité, et que on verra bien, d'ailleurs la réunion c'est en avril, hein, à Londres, on verra bien que les 20 en avril à Londres auront beaucoup de mal à trouver une solution, car d'ici là, la crise se sera encore aggravée.
Une dernière petite phrase pour finir, elle est de Ronald Reagan. L'État n'est pas la solution, c'est le problème. C'était Ronald Reagan qui avait raison. Bien sûr, Ramonet, merci.
Ladies and gentlemen, we have the Honey Drippers in the house tonight. And they just got back from Washington, D.C. I think they got something they want to say.
These United States are confronted with an economic affliction of great proportions.
Ronald Reagan.
The economic ills we suffer have come upon us over several decades.
I think they got something they want to say.
They will not go away in days, weeks, or months. But they will go away.
20 janvier 1980.
They will go away because we, as Americans, have the capacity now, as we've had in the past, to do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of freedom. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
C'était un entretien réalisé par Daniel Mermet pour l'émission Là-bas, si j'y suis. Merci à Ignacio Ramonet, auteur de Le Crack Parfait, Crise du siècle et refondation de l'avenir, paru aux éditions Galilée. Merci également à Éric Thérèse de Tropique FM. Tropique FM, où vous pouvez suivre en détail les événements de Guadeloupe sur 92.6 FM. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Chérif Bitelmadji et Cédric Lalanne. Réalisation Koy Nguyen et Raphaël Mouterde. Assistante Charlotte Perry. Répondeur Agnès Lebotte. Et le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37. We'll be right back. C'était le projet Abraham Inc. avec David Krakauer, Fred Wesley et Sokol, de titre du morceau que vous venez d'entendre, Moskowitz and Loops of It.